Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Avril 1912, Paris. Raymond Lascience se cache chez un camarade anarchiste rue de la Tour d'Auvergne, dans le 9e. Depuis le braquage de Chantilly, l'anarchiste passe le plus clair de son temps dans cette piaule qui sent la poussière. La fenêtre est tellement petite que le soleil arrive à peine à passer. Raymond Calmin ne sort presque pas, juste pour faire des courses. Et puis, il se carapate dans son gourbi au 6e étage. Il a 22 ans, Calmin, et sa vie est déjà derrière lui. En fumant des cigarettes, assis sur son lit, il repense à sa jeunesse à Bruxelles. Il a grandi dans la rue, chassé par son père alcoolique et cordonnier. C'est en Belgique qu'il a rencontré Karoui et un type du nom de Kilbatchich, qui est devenu directeur du journal L'Anarchie. Mais tout ça, ça lui fait une belle jambe maintenant.
C'est un indique qui a prévenu le commissaire joint de l'endroit où se planquait Calmin. Pendant plusieurs jours, des inspecteurs de la sûreté, déguisés en charbonnier ou en épicier, ont surveillé les allées et venues à l'adresse indiquée. Quand ils ont la certitude que c'est Calmin qui se cache dans la chambrette, ils montent une souricière et l'attendent caché dans la loge du concierge.
Rester trop longtemps au même endroit, ce n'est pas prudent, se répète Calmin. Il passe l'après-midi à regarder sa montre et à attendre qu'il fasse nuit. Vers 18h30, il se lève de son lit et enfile sa veste. À cette heure-là, les braves gens ne traînent pas dans les rues. Au moment où il prend son vélo garé dans la cour, il sent une main se poser sur son bras. Il tente de saisir son Browning enfoui dans sa pochette, mais une manchette coupe son geste. Deux types habillés comme des ouvriers le saisissent et le ligotent à l'aide d'une corde. Calmin se débat jusqu'à ce que le commissaire joint sorte de la pénombre de la loge du concierge.
Les policiers fouillent Calmin. Sur lui, ils saisissent trois autres pistolets automatiques chargés. Ils le font monter dans un taxi et le conduisent à la sûreté. En regardant la voiture s'éloigner, Jouin se dit qu'il touche au but. Il ne reste que Bonneau, Garnier et Vallée, encore en fuite. Cela a pris du temps, mais les hommes de Jouin et Guichard obtiennent des résultats. 8 avril 1912, Paris. Les policiers ont découvert que René Vallet occupait un logement au 96 rue Ordener, à une centaine de mètres de l'agence de la Société Générale. C'est lui qui a indiqué le coup à Bonneau. Quand Jouin et ses inspecteurs perquisitionnent l'appartement, Vallet a déjà pris la fuite. Les policiers récupèrent quand même deux pistolets et trois carabines Winchester provenant d'un cambriolage commis le 9 janvier. Ce sont ces armes qui ont servi lors du braquage de Chantilly. Ils récupèrent également des courriers qui leur fournissent l'identité d'un sixième braqueur impliqué dans l'attaque de Chantilly. Il s'agit d'Étienne Monnier, 23 ans, alias Simentov. Ancien jardinier et insoumis, Monnier s'est soustrait au service militaire et a vécu quelque temps à Bruxelles avec Garnier, Karoui et Calmin.
« 22 avril 1912, Paris. Simentov fouille la poche de son pantalon et en retire quelques pièces qu'il compte dans le creux de sa main. Il a de quoi se payer une nuit au chaud et un repas. Il connaît un hôtel-restaurant discret boulevard de Ménilmontant. Simentov paie sa piole d'avance, puis il demande qu'on lui serve un plat du jour et un pichet de rouge. Il a les nerfs en plotte. À 21h, il monte se coucher, en se demandant où il va crêcher le lendemain. C'est le bruit de la clé dans la serrure de sa chambre qui le réveille à 6h30 du matin. Il n'a pas le temps de sortir de son lit que trois flics lui sautent dessus avant que Join entre dans la pièce.
« 24 avril 1912, Ivry. » Les papiers retrouvés sur Simentov conduisent Join chez un soldeur du nom de Gozzi, qui tient un commerce près de la porte d'Ivry. Le quartier du Petit Ivry est un quadrillage de maisons lépreuses, des bâtiments délabrés de trottoirs crasseux. Les gens qui vivent là sont des chiffonniers, des miséreux et des employés à la journée. La mercerie de Gozzi est un de ces « décrochez-moi ça » dans lequel on trouve de tout, des fringues pour hommes, de la lingerie, des coupons de tissu et toutes sortes de babioles. Comme dans tous les commerces, Gozzi occupe l'appartement au premier étage au-dessus du magasin.
C'est Simentov qui a dit à Bono de se planquer là. Quand les flics entrent dans la mercerie, Bono entend leurs gros souliers qui font craquer le plancher du rez-de-chaussée. L'oreille collée contre la trappe qui ferme l'escalier intérieur, il écoute la conversation. Gozzi raconte aux flics qu'il est seul dans le logement. Sa femme est partie à Nîmes il y a 2 jours. Mais il y a un truc qui tremble dans sa voix. Bono le perçoit. Il est certain que les flics s'en sont aperçus.
Eh bien, s'il n'y a personne, on ne risque pas de déranger, dit Join, d'une voix qui cache mal son agacement.
Cela ne nous fait rien qu'on jette un coup d'œil, n'est-ce pas ?
Bono se recule dans la chambre du fond, dont les volets sont fermés. La pénombre est complète, bien qu'on soit en fin de matinée. Dans l'encadrement de la porte, Bono devine le commissaire, Join, qui s'approche, une main sur son front à la manière d'une visière pour adapter sa vue.
Bien qu'il ne distingue pas le fond de la chambre, Join sait que Jules Bono se tient caché dans l'obscurité. Son instinct le lui dit. Il sent d'abord un mouvement, puis perçoit une ombre qui se déplace. Join se précipite, suivi de l'inspecteur Colmar, un type solide et costaud. Les deux policiers se jettent sur Bono qui se débat. Les trois hommes tombent à terre, ils grognent, ils soufflent.
Jules Bono reste allongé sur le sol à côté du corps sans vie du commissaire Join. Du coin de l'œil, il aperçoit l'inspecteur Colmar qui se relève et se traîne vers la porte pour aller chercher du secours. Le flic est blessé. Le bandit écoute les pas de l'inspecteur qui descend l'escalier. Il se relève, traverse sa chambre, passe la cuisine et gagne le palier. En face de lui, se tient une voisine qui le regarde d'un air épouvanté. Bono tient son bras en écharpe. Il a reçu une balle. Il est blessé. Sans un mot, il écarte la voisine, entre dans son appartement et enjambe la fenêtre. De la cuisine, il saute sur le toit d'une remise et se laisse tomber à terre, 2 mètres plus bas. Il est dans un jardin ouvrier. Une allée conduit à un portail qui ouvre sur un chemin de terre filant le long des murs du fort d'Ivry. Bono disparaît dans la foule.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première, et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
La mort du commissaire Join fait l'effet d'un électrochoc au sein de la Sûreté Générale. Bono devient l'ennemi public numéro un, l'homme à abattre. Car désormais, les policiers savent qu'il ne se laissera pas prendre vivant. En interrogeant le commerçant Gozzi, le commissaire Guichard apprend que la fille d'un certain Fromentin se rend régulièrement à la mercerie où elle rencontre des militants anarchistes. Fromentin est un drôle d'oiseau. Millionnaire converti aux idées révolutionnaires, il possède un garage à Choisy-le-Roi, ainsi que plusieurs terrains sur lesquels il a fait construire des lotissements qui ont fait sa fortune. Se fiant à son instinct, Guichard décide d'envoyer des agents patrouiller dans cette localité de banlieue.
Bono tire la dernière cigarette de son paquet et l'allume. Son bras gauche le fait souffrir. La balle a traversé le biceps. Le pharmacien qui l'a braqué la veille a accepté de lui faire un pansement. Mais il n'a rien pour combattre la douleur. Pas même une aspirine. Heureusement, il a trouvé à se planquer dans le garage que Fromentin a confié en gérance à un type du nom de Jean Dubois. Le premier étage a été transformé en habitation. Et au moins, Bono a un lit pour dormir.
« 28 avril 1912. L'intuition du commissaire Guichard est bonne. Les patrouilles envoyées à Choisy recueillent les témoignages d'habitants, inquiets des allées et venues suspectes dans le garage du bois. Vers 7h15 du matin, le commissaire reçoit un appel téléphonique du chef d'une brigade mobile qui est allée fureter autour du garage du bois. Sans se faire repérer, le chef de brigade a aperçu entre les planches disjointes un homme en train de réparer une moto. » Et cet homme, il en est certain, est Jules Bono.
Huit heures. Quand il débarque avec ses 15 inspecteurs, Guichard fait autant de bruit que s'il conduisait un troupeau d'éléphants. Bono les écoute à travers le plancher. Les Pandores ordonnent à Dubois de se rendre, mais le garagiste sort son flingue et les aligne d'entrée. Les flics ripostent. Et maintenant, Dubois est en bas dans le garage, aussi mort qu'on peut l'être. Jules Bono, lui, est terré dans la chambre à l'étage. Heureusement, la veille, il est allé se chercher des cigarettes. Il a de quoi fumer en attendant qu'il lui fasse sa fête.
Guichard et ses inspecteurs se sont repliés à couvert. Le commissaire a appelé Lépine pour l'informer de la situation. Cette fois, le préfet a fait les choses en grand. Pas question de se laisser surprendre. Lépine est accompagné d'une compagnie de la garde républicaine, de la première compagnie de réserve des gardiens de la paix, de tous les agents disponibles du 13e arrondissement, de commissaires et d'inspecteurs de banlieue ainsi que de soldats de l'infanterie coloniale. Les hommes se disposent autour du garage, derrière les arbres, dans les fossés ou à plat ventre au milieu des champs. Le garage est cerné. Des habitants sont venus en renfort avec leurs fusils de chasse. Certains tirent sur le garage pour se défouler.
10 heures. Assis au fond de la chambre, Bono les entend qui se donnent des ordres à l'extérieur. Il sent la présence de la foule. Il y a du monde qui est venu assister au feu d'artifice. Et ça fait un joli bordel, pense-t-il. Tout à l'heure, ils ont opéré des tirs de barrage contre la façade. Les balles ont défoncé la fenêtre. Les impacts rebondissaient sur le mur, arrachant des morceaux de plâtre et des écailles de la tapisserie.
11h15. Un officier de la garde républicaine, le lieutenant Fontan, vient trouver Lépine et Guichard. « Il faut sortir de cette impasse », affirme-t-il. « Nous pouvons pousser une charrette de foin contre le mur du garage après avoir placé des explosifs. Il suffit de tout faire sauter. Bono sera obligé de sortir. Je suis volontaire pour cette mission. » Lépine et Guichard hésitent, mais le lieutenant insiste.
Bono les entend qui approchent une charrette sur le côté du garage. Il ne tire pas. Il garde ses balles pour plus tard. Il sait qu'ils veulent le déloger à l'explosif. Il empoigne le matelas, s'en servant comme d'un bouclier, et se glisse sous le lit. Il attend. Une minute. Deux minutes. Cinq minutes. Dehors, il perçoit des cris de déception. Le vent a éteint la mèche. Les imbéciles, se dit-il.
Malgré la déception, le lieutenant fait une seconde tentative qui est un nouvel échec. La charge explosive est insuffisante. Très vexé, Fontan précède à une troisième tentative. Son honneur est en jeu. Il ne veut pas passer pour un incompétent. Midi sonne aux clochettes d'église. La charrette est placée une troisième fois près du garage. Ce coup-ci, le lieutenant a placé 2 kilos de dynamite. De quoi soulever 60 tonnes de rochers.
Bono se plaque au sol, couché sous le matelas. Il sent le souffle de l'explosion qui emporte le mur du garage, ouvre une brèche dans le mur et provoque l'effondrement de la moitié du garage dont le toit est en feu. Un immense nuage de fumée recouvre pendant plusieurs minutes les champs et l'entrée du village. La foule crie
« À mort ! À mort ! »
Des badauds forcent le barrage de police pour être les premiers à voir le résultat du carnage. Les flics entrent dans la chambre en tirant dans tous les sens. Bono sent les 9 balles qui percent sa peau. Des mains l'arrachent du matelas sous lequel il se cache. D'un geste aveugle, il tire dans la direction des flics. Son corps flotte dans l'air. On l'emporte comme un trophée.
Les policiers glissent Bono mourant dans une voiture et le conduisent à l'Hôtel Dieu, où il meurt de ses blessures à 13 heures. La foule investit le garage et s'acharne sur le corps sans vie de Jean Dubois. Le cadavre est piétiné par des habitants en colère.
14 mai 1912, Nogent-sur-Marne. Octave Garnier et René Vallet, derniers membres de la bande, sont tués comme Jules Bono, au terme d'un siège d'un pavillon de banlieue où ils se cachaient avec leur maîtresse. Les bandits ont été fauchés par des tirs de mitrailleuse après une nuit de siège.
Édouard Carouy s'empoisonne à l'aide de cyanure et meurt le 27 février 1913, après sa condamnation à la réclusion à perpétuité. André Soudy, Raymond Calmin et Étienne Monnier sont guillotinés dans la cour de la prison de la Santé, le 21 avril 1913.